Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, dans le rétro, soyez les bienvenus, je me présente, Déborah Grunewald. Chaque semaine, on embarque pour un voyage dans le temps, jamais seul, toujours accompagné, puisque ce voyage, on le fait avec un invité. Dans ce podcast, on y évoque sa vie, sa carrière. On se rend compte d'ailleurs bien souvent qu'on traverse les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui est mannequin en Arménie. Alors ça, c'est pour la vanne, c'est sa vanne, pas la mienne. Et il est humoriste, ça fait un an et demi qu'il est constipé. Bonjour Mathieu Madénian.
Bonjour, c'est une belle présentation. Il y a tous les gens qui disent, bon, on passe à autre chose.
Alors, constipé parce que vous êtes papa.
Ouais.
Et donc, j'ai appris pendant le spectacle que vous ne tiriez plus la chasse d'eau parce que votre fils faisait la sieste.
Et ben là, c'est exactement. Il fait la sieste, donc pendant 2 heures, il n'y a plus de bruit à la maison. On tire les rideaux, tu as l'impression d'être dans un EHPAD, sauf que c'est un bébé qui dort et on attend qu'il se réveille pour aller aux toilettes. Ça, c'est compliqué.
Mathieu Madénian, est-ce que vous êtes un mytho ?
Non.
Sur scène, vous dites que vous avez 50 ans et sur Internet, vous en avez 48.
Ouais, j'arrondis, j'ai dit presque 50. C'est vrai que je devrais dire, ma famille me gueule dessus parce que ouais, j'ai 48, je vais faire 49 le 23 juillet. Voilà, 49 le 23 juillet.
Mais c'est rare de dire qu'on a 50 ans alors qu'on les a pas encore.
Ouais, mais ça me dérange pas de vieillir, je trouve que c'est bien de vieillir. Quand j'aurai 50 ans, je serai content, c'est un bel âge 50 ans, donc ça m'ennuie pas.
Quand vous aurez 50 ans, vous direz que vous en avez 60.
Exactement, ouais, c'est ça, exact. Et puis à 60, ben, j'irai chercher mon caveau. Mon père a déjà acheté le caveau familial. Putain, il fait... Tu te rends
mais
compte,
non, c'est une blague.
Non, c'est vrai. À Saleil, il y a un cimetière derrière la maison et il a acheté déjà l'emplacement. Mais c'est horrible de raconter ça. C'est un truc en hauteur et lui, il veut être tout en haut pour regarder la maison.
Non, mais c'est un caveau familial, donc il y a vos places aussi.
Il y a les places. Alors, mais il n'y a pas la place de ma femme. Donc on est emmerdé, on discute de ça. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est où on va passer notre mort.
Mathieu Madénian, vous n'avez plus de secret pour nous. Vous êtes marié, vous êtes papa, vous êtes constipé. Donc on apprend que la maman est plus jeune que vous. 15 ans de moins. 15 ans de moins, ça veut dire que sur l'éducation, on n'est pas forcément raccord, j'imagine.
Ah, c'est pas du tout le même schéma. Moi, je viens de l'ancien monde. Que t'es pas mal d'ailleurs. Tu vois, je suis pas mort, hein. Mais là, on est plutôt dans de l'éducation positive. Et puis, c'est bien, parce que dans positif, il y a positif. Donc, c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai moins mon mot à dire. Je suis le rythme. J'apprends en même temps que le gosse, en fait.
Il y a la bonne éducation et il y a la vôtre.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est là, il y a celle, l'éducation qui met des trucs dans les prises pour pas que le gosse prenne le jus. Et l'autre éducation qui dit, mets ta langue, au moins que t'apprendras qu'il faut pas jouer avec l'électricité.
On surprotège trop nos enfants?
Non, je pense qu'on surprotège. Non. Non, non, il faut les aimer, il faut les câliner. Et le monde est assez cruel pour leur apprendre assez tôt que c'est pas la vraie vie. Mais en attendant, je pense qu'il faut les protéger, les surprotéger. C'est pas mal. Je trouve ça bien.
L'éducation, Mathieu Madénian, c'est aussi transmettre des valeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à votre fils quand il sera plus grand ?
Oh là là, tu sais, c'est compliqué parce que je t'aurais dit, allez, vas-y, je vais me la jouer Miss France, sois gentil avec les gens. Parce que quand t'es gentil, ça ouvre tout. T'es gentil, t'écoutes, t'es gentil, tu penses à l'autre, t'es gentil, t'es pas raciste, t'es gentil, tu acceptes l'autre comme il est. Enfin, tu vois, c'est des données. Mais quand tu vois le monde comme il est en train de partir et la notion de... Quand tu vois les ultra-riches qui se permettent de tout faire et qu'on leur dit rien, je me dis peut-être que je dirais à mon fils, gagne de l'argent très vite et fais ce que tu veux. Donc j'ai le cul entre deux chaises.
T'es gentil, tu peux te faire bouffer aussi.
Ouais, mais j'y crois pas à ce truc-là. Je trouve que ça reste une très très belle qualité. Alors on dit trop con. Ouais, trop bon, trop con. Vaut mieux être trop con que trop connard, je pense. C'est pas grave.
C'est quoi la différence
quand
entre
t'es trop
con et connard
con, le con gagne à la fin. Le connard perd.
Il y a une chose qui fait du bien à entendre, c'est que vous faites la vaisselle et le ménage. Enfin, avant de recevoir des invités, en tout cas.
Oui, c'est ma femme, dès qu'on invite des gens à manger, il faut que la maison soit propre. Même la douche. Alors ça, je n'ai pas compris quand tu fais une raclette de laver la douche. Mais oui, j'essaie d'alléger la charge mentale de ma femme, même si ce que je fais, j'ai tendance à dire, elle sait faire des trucs que je sais faire et les trucs que je sais faire, elle les fait mieux. Donc elle repasse derrière et ça lui donne
plus
de boulot.
C'est ce que j'allais vous demander.
C'est un peu compliqué, ça. C'est comme la vaisselle. Moi, j'utilise la vaisselle, alors que j'ai appris qu'il fallait laver l'assiette avant de la mettre dans la vaisselle. Mais par exemple, elle me donne des indices de ce que je dois faire. Par exemple, si tu laisses un caleçon par terre, elle ne va pas me dire ramasse-le. Elle me dit, il est à qui ce caleçon? Alors évidemment, il est à moi, parce que ça veut dire sinon il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait l'amour avec ma femme, qui avant de partir a jeté le caleçon. Et qui... Mais évidemment, dis-moi-le directement. Mais oui, j'essaie de. Ça fait un peu boomer de dire ça, mais oui, j'essaie de l'alléger le plus possible, même si elle a beaucoup de travail entre moi et le petit. Putain, ça ne doit pas être évident pour elle.
Donc vous laissez traîner vos caleçons, Mathieu Madénian?
Non, maintenant j'ai appris que. Non, parce qu'on a un enfant.
Donc et les chaussettes?
Mais j'ai appris à Milo à ramasser. Il a deux passions dans la vie, c'est mettre les trucs dans les poubelles et mettre les trucs dans le lave-linge. Donc dès qu'il y a un truc qui traîne, je lui dis tu peux mettre ça dans le lave-linge. linge. Et des fois, tu retrouves des bouteilles dans le truc d'un linge et vice-versa.
Non, mais c'est bien, il est bien élevé.
Oui, il est chouette.
On apprend aussi que vous admirez Nicolas Sarkozy, que vous foutez de l'écologie et que vous regardez CNews pour vous détendre.
Ça fait beaucoup d'informations. J'admire Nicolas Sarkozy parce que je le trouve tellement bien dans sa peau avec toutes les affaires qui lui tombent dessus. Mérité, hein. Mais je le trouve, moi je serais chez moi, j'aurais honte de sortir. Lui, il est là, il va dire bonjour, il serre la main aux juges, aux flics. Enfin, moi, c'est l'impression que même la dame pipi du tribunal, il connaît. CNews, ça me détend parce que je le prends au second degré. Je trouve cette chaîne incroyable. Et l'écologie, si j'étais vraiment écolo, est-ce que j'aurais fait un bébé? C'est la question.
Vous regardez CNews pour vous détendre, vous auriez pu regarder C8. Mais il n'y a plus.
Il n'y a plus. Je regardais C8, je regardais... est-ce que C8, il y avait des émissions? Alors, je n'étais pas TPMP parce que je n'étais pas la cible. Mais avec le petit, on regardait le truc, le zoo. Ouais. Il y avait un truc sur le zoo et je trouvais cette émission incroyable. Donc voilà.
Au pire, à la télé aussi, vous regardez l'émission de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui.
C'est ma femme qui regarde ça, donc automatiquement je regarde ça. Et je trouve cette émission tellement émouvante et tellement... et ça correspond tellement à Faustine.
Vous pleurez devant ça comme
ça? Ouais, je chiale parce que c'est moi, je viens d'une éducation où on nous a empêchés de pleurer. Ouais. Donc maintenant, tu me fous l'amour et dans le pré. Là, en ce moment, il y a Marie au premier regard. Ah, c'est bon, c'est mort. Tu me mets la musique de James Blunt.
Je crois pas.
Ah non, je crée. Mais moi,
c'est vrai,
mes émissions préférées, c'est Marie au premier regard et L'amour est dans le pré.
Dans votre spectacle, Mathieu Madénian, vous évoquez aussi la mort, les enterrements, celui d'Aznavour, celui de Michel Blanc. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui lui ont rendu hommage. Pas vous, par contre.
À qui, Aznavour ou à Michel Blanc?
Mais
j'avais
Blanc.
Pas la photo. En fait, tu rends hommage au mec qui meurt ou aux femmes qui meurent. Quand t'as la photo, apparemment, tu sais, c'est la génération Instagram, c'est le deuil numérique, comme on dit. Il n'y a pas plus con que le deuil numérique et de plus faux cul que le deuil numérique. Parce que moi, quand j'ai quelqu'un qui meurt à côté de moi, enfin, que j'aime beaucoup, je vais pas aller m'épancher sur les réseaux sociaux. Tu vois, je veux dire, le deuil, moi, je viens d'une famille,
pudique.
Ouais, c'est ça. C'est la douleur, le pleur, c'est à la maison. Et là, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, t'as tout le monde qui s'empresse de se dire alors attends, qu'est-ce que je vais pour avoir des likes, pour avoir des followers. Et en fait, le message c'est il est mort, mais regardez-moi, je vis encore. Aimez-moi.
Puis maintenant, il y en a qui se filment aussi en train de pleurer sur les réseaux sociaux.
Comment c'est possible ça? À quel moment on peut avoir si peu de spontanéité pour se filmer en train de chialer? Parce qu'ils sont obligés de faire ah non, attends, je vais mettre ce filtre-là. Il n'y a rien de moins naturel que chialer dans les... Quand je vois quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux, je te jure, je me retiens d'envoyer des commentaires, de dire mais...
Mais on le voit, ça vous énerve parce que vous avez même enlevé votre casque
ça me rend
de colère,
dingue.
Quoi.
Je trouve, il n'y a rien de plus putaclic que ça. Je veux bien comprendre qu'on puisse dire, vas-y, je suis triste, mais le foutre sur les réseaux, montrer à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on est triste juste parce qu'on trouve ça joli d'être triste. Non.
C'est pour montrer nos failles, montrer qu'on peut être fragile.
Mais pourquoi?
Bah parce qu'on est dans une société où il faut être beau, il faut être fort, il faut être intelligent, il faut être le meilleur.
Et quelque part, c'est un moyen de montrer que t'es humain et comme les gens qui te regardent. Oh là là, non, 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 pas ça.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez à Perpignan, votre mère Jacqueline est d'origine allemande. Jacqueline, c'est bien ça, hein ?
Ça fait Jacqueline,
Jacqueline.
Ouais.
Est d'origine allemande, votre père Claude d'origine arménienne. Votre grand-père, à 4 ans, fuit les massacres arméniens. Votre arrière-grand-père a été arrêté par les autorités turques. Personne ne l'a jamais revu. Une histoire familiale comme celle-ci, elle a forcément une incidence sur ce que sont nos parents. Qu'est-ce qu'ils ont gardé en eux de tout ça ?
La pudeur ? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de « on pleure pas ». Moi, chez moi, on pleurait pas parce que quand tu parles d'éducation, je pouvais pas voir mon père et lui dire « papa, je suis triste parce que j'ai eu 9 sur 20 maths ». Lui, il me disait « ben, ton grand-père, il a enterré ses parents ». Ok, bon, ça va, ok, ça rétablit, tu vois.
Ouais.
Donc, on a une espèce de pudeur de, à la maison, on pleure pas, on se plaint pas. Les Arméniens, tu verras aucun Arménien, si tu en connais, si tu en invites, invite des Arméniens, des Manoukians, ils te diront jamais, j'ai parlé à mon père. C'est des trucs, on parlait pas à notre père. Je parlais pas à mon père, je n'osais même pas lui dire que j'avais soif. S'il m'aurait dit, avale ta salive.
Ça vous a manqué, ça?
Oui, bien sûr. Alors, on s'est rattrapé.
Ouais.
Mais, et puis ça va. Et puis, on se construit autrement. C'est ça le but aussi. J'ai une maman à qui je parlais trop et à qui je continue à trop parler et qui m'écoute trop.
Mais est-ce qu'on parle trop à une maman ?
Non, mais justement, tu vois, c'est par rapport à ça. C'est comment tu élevais ton enfant après ça. Ben, tu essaies de faire un peu mieux. Mmh. Donc, si mon fils, un jour, il me dit « Papa, j'ai envie de te parler », je vais m'asseoir et je vais dire « Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?»
Mmh. Mathieu Madénian, un père vendeur de pneus, une mère assistante sociale. Votre mère a un truc que beaucoup de mamans ont. Elle arrive à vous faire culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut.
Ouais, ben je l'ai eu encore au téléphone. Déjà, elle a la voix, tu sais, cette voix qui fait « ça va, ça va ». Elle est adorable, elle le sait en plus, tu vois, c'est vraiment... Pour lui remonter le moral, je lui dis que je vais pas.
Ah,
je vais pas bien. Ben, parce qu'elle retrouve son rôle de mère. Fais ce test, mesdames et messieurs qui écoutez, si vous avez une mère culpabilisatrice, eh bien dites-lui, je suis malade, j'ai la grippe. Et là, la voix, elle change. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Et elle t'appelle, elle retrouve son rôle de maman. Mais ma mère, c'est ça. Ma mère, c'est ça va. Elle se plaint de conneries, quoi. Mais elle aime bien. Pour elle, je travaille pas, tu vois. C'est ma sœur qui travaille. Moi, je travaille pas. Moi, c'est un loisir.
Bah, mais c'est pas sérieux ce que vous faites.
Oui, t'as raison. Remarque. Non, mais c'est vrai, c'est un jeu. Non, mais d'ailleurs, on dit jouer, tu vois. Mais j'ai une mère qui me tient avec ça, ouais. Mm. Encore, hein. J'ai bientôt 50 ans, tu vois, je fais gaffe. Mais elle me tient avec ça.
Comme de plus en plus de parents, Jacqueline, votre maman, est aujourd'hui sur Instagram.
Histoire vraie, ma maman, ma mère, elle a un compte Instagram. Je suis son seul abonné. Alors ne tapez pas Jacqueline Madénian sur Instagram, parce qu'elle a mis un pseudo. Parce qu'elle ne veut pas qu'on la retrouve. Qui te cherche ? Qui te cherche ?
Moi, je la cherche. Je vais te chercher.
Bepsou Jadon, 66. Et elle a son compte Instagram. Et il y a des bégonias, des conneries comme ça. Et elle m'a réellement bloqué parce que je m'étais foutu de sa gueule parce qu'elle voulait faire une story. Donc, je lui ai montré comment faire une story. Et je lui avais sorti une vanne. Elle m'a bloqué pendant une journée pour montrer que... Enfin, complètement.
Mais justement, est-ce que ça fout pas la merde, les réseaux sociaux, entre les parents, les enfants, entre les différentes générations aussi, si on like pas la photo de nos parents, si...
Non, tu sais ce que ça
on
fout la merde.
Parce qu'ils balancent des dossiers.
C'est que tes parents savent ce que tu fais. Par exemple, je sais que quand ils sont tristes et que je vais voir un match à Marseille, je mets pas ça en story. Bon, parce que j'aime pas déjà montrer ce que je fais quand c'est pas mon taf, mais surtout, je sais que ma mère va m'appeler. Ben, ça va, tu t'amuses bien. Parce que nous, à la maison, tu as le temps d'aller au stade Vélodrome et venir nous voir, nous, non ? C'est pas grave, Mathieu. On peut comprendre. Et t'as ce truc-là, putain.
C'est pareil avec le mari ou la femme.
Oui, c'est pareil. Il
faut faire gaffe aussi.
Il faut faire gaffe à tout, en fait. Il faut se déconnecter de son téléphone.
Votre père, Mathieu Madénian, lui, il aurait aimé vivre de la comédie. Il vous accompagne souvent en coulisses. Quand on a un parent qui vit sa passion par procuration, est-ce que ça fout pas un peu la pression ? Parce qu'on a envie d'être à la hauteur.
Ça
on
fout la honte.
Décevoir.
Ça fout la honte. Moi, j'ai un père... Mais laisse tomber. Mon père, il vient avec moi en tournée, t'as l'impression que c'est lui sur scène. Il m'attend dans les loges et quand je sors de scène, il me fait « On a été bon ».
Ah, c'est bien.
T'as mangé des cacahuètes, toi. Mais c'est un mec, la vérité, on jouait à côté de Béziers. Et je fais mes dédicaces à la fin et mon père, il contrôle le nombre d'invitations. Et quand il y a trop d'invitations, c'est les Arméniens, c'est nous qu'il faut gagner la vie. Hein. Et je signe mes autographes, il est à côté de moi. Il y a quelqu'un qui arrive, qui me met ma photo pour que je signe. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « On peut faire une photo ?» Et je m'en vais faire la photo. Et le gars, en rigolant, reste avec mon père et dit « Oh, je vais pas demander un autographe au père de Mathieu Madénian quand même. » Qu'est-ce qu'il a fait mon père ? Il a pris ma photo et il a signé son nom sur ma photo. Il a pris au premier degré. Et je lui dis « Mais t'es con ou quoi ? Pourquoi t'as signé ?» Ça lui fait plaisir au petit là. Mais en quoi ça va lui faire plaisir ?
Bon alors d'accord, ok, il fout la honte.
Ouais.
Mais il y a quand même une espèce de... Oui, on a envie d'être à la hauteur en fait.
Oui, oui.
Pour eux en fait.
Non mais on fait toujours... C'est de la psychologie de comptoir de dire qu'on fait un métier qui nous a été un peu influencé par nos parents. Moi, je voulais faire rire mon père. Mon père, quand j'étais petit, regardait De Funès à la télé et moi je comprenais rien, mais je voyais ce mec De Funès qui avait le pouvoir de faire rire mon père. Et moi je dis, je veux avoir ce même pouvoir. Donc maintenant, ouais, je pense qu'ils sont fiers de moi. Et j'essaie de leur faire profiter de ce qui m'arrive.
Vous dites, je pense qu'ils sont fiers de moi. Ils vous le font pas savoir, vous le...
On
faut
le
deviner.
Pas. On le dit pas.
Ouais,
on le dit pas. Pas. Mon père, jamais, il m'a dit, je suis fier de toi. Je sais qu'il est fier
mais
de moi.
Mais il vous fait pas comprendre, il y a pas comme
si,
ça
ouais,
des...
Il y a des oui, moments. Bien sûr. Bah, il vient de te voir sans arrêt un spectacle. Dès qu'il y a une émission avec un humoriste autre que moi à la télé, il m'appelle et il me dit, pourquoi il est à la télé ce connard et pas toi ? Et il est nul. Moi, j'ai regardé, il est nul. Non, mais il est nul. Je dis, papa, m'engueule pas, c'est pas ma faute s'il travaille. Mais il y a plein d'humoristes. Mais toi, tu devrais être partout. Et donc, c'est sa façon à lui de dire que je suis le meilleur.
Vous êtes papa aujourd'hui, Mathieu Madénian. Vous en parlez dans votre spectacle à pleurer de rire. Mieux vaut être parent dans les années 60-70 ou dans les années 2020 ?
Bah, quand t'es papa dans les années 60-70, c'était facile, t'étais pas là. Tu partis le lundi, tu rentrais le vendredi. Quand le père arrivait à la maison, la mère disait « Il arrive ! Cachez-vous ! Il vous aime ! Mais attention, il peut vous taper à tout moment, sans raison !» Regardez ces programmes télé, fermez vos gueules. Donc c'était ça le papa, c'était le cow-boy qui arrivait dans la ville, quoi. Tu te cachais. Moi, mon père, c'était pas quelqu'un qu'on craignait, mais on s'est croisés dans le spectacle. Quand je dis qu'il pouvait pas venir me chercher à la crèche, il m'aurait pas reconnu quand j'étais petit. Il aurait fait, on prend celui-là et après on procédera à l'échange s'il y a un problème. Le père, c'était le patriarche. Le côté mon père, c'est mon meilleur ami. C'est nouveau ça, mais mon père, c'était pas mon meilleur ami, hein. C'était mon père.
On peut être pote et papa en même temps.
Je les déteste, les gens qui disent ça. Je les vois au parc, là, les jeunes papas.
Je pose une question. Hein.
Oh, je sais pas. Déjà, tu peux être pote, je sais pas. J'ai aucune leçon de parentalité à donner parce que déjà, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai, de faire du mieux que je peux. Mais est-ce qu'on peut être pote? Moi, j'ai pas été élevé comme ça.
Ouais.
Je pense qu'il faut quand même mettre une petite frontière.
Des limites.
Je sais pas si des limites, mais à un moment donné, tu es papa, t'es le fils, quoi.
Puis ça dépend peut-être des âges aussi.
Oui, je pense. Quand t'es petit, mes parents me faisaient coucher à 8h30, 9h, j'étais couché. Et j'avais toujours un pote. On l'admirait. Son père, il disait, tu couches à l'heure que tu veux. Et on se disait toujours, putain, le mec, son père, il est cool. Et des années plus tard, on s'est aperçu qu'il n'était pas cool, son père. C'était juste un alcoolique dépressif qui s'en foutait de son fils.
Ouais.
Tu vois? Donc je me dis que peut-être que je suis content de m'être couché à 20h et à 21h.
Nous voici au collège, vous êtes un bon élève, vous avez des bonnes notes, ça ne m'arrange pas du tout pour l'émission en fait. Pas de failles, pas de difficultés auxquelles il faut contrôler.
Inintéressant. J'étais un gros bosseur. Il fallait que je réussisse tous mes examens au mois de juin pour aller faire le con dans les villages de vacances de ma région et monter sur scène.
Alors Mathieu Madénian, on part maintenant au début des années 90.
Là, c'est super. Putain, ils auraient pu me les donner, ces connards de
fromage. On se retrouve, hein.
C'est génial. Direct. Nous sommes maintenant devant les portes du lycée. À l'époque, pas d'internet, pas de fax, à la rigueur, un télégraphe, peut-être. On est donc... Non, mais là, il faut rire. J'essaie de faire
pardon,
une vanne.
Excuse-moi, mais je rebondissais à ce que tu disais, mais t'es pas loin.
Mais non, vous rebondissez pas.
Non, mais je réfléchissais, on n'avait pas de... J'étais en train de me dire, mais comment je vais expliquer à mon fils le fax? Mais je vais devoir lui raconter que le téléphone avec un fil, le répondeur, tu sais, quand t'appuyais, et tu disais, est-ce que j'ai un message? Je me rappelle que pour moi, à l'époque du lycée, quand je commençais même un peu avant, la révolution, tu sais qu'on avait les cassettes, c'était l'auto-reverse automatique. Et là, on se disait, waouh! Elle s'est tournée toute seule. Non mais qu'est-ce que t'as, mais comment je vais lui faire comprendre ce truc-là, moi?
On est donc devant les portes du lycée où sont affichés les résultats du bac. Vous décrochez donc votre bac. Mention très bien. Donc une fois de plus, ça m'arrange pas du tout pour l'émission. Vous êtes brillant en fait.
Je suis un bosseur. J'étais absolument pas brillant. Je faisais du droit, donc il fallait que j'apprenne. Mais absolument pas doué. J'étais un gros gros bosseur.
Mathieu Madénian, à l'époque, vous ne vous destinez pas du tout à la comédie, mais plutôt... Vous préférez vous spécialiser en criminologie et en droit pénal pour devenir criminologue. Vous êtes passionné par les tueurs en série. Vous n'êtes pas enclitophile ?
Ça, alors, enclitophile, ça veut dire...
Même dire hybristophile.
Hybristophile, enclitophile, ça veut dire quoi, ça ?
Alors, c'est quelqu'un qui est attiré par une personne qui a commis un crime violent.
Ah oui, d'accord, ok. Mais je pense qu'on l'est tous. Il y a tous cette part sombre...
Bon, sauf que c'est une attirance sexuelle, hein, la plupart.
Ah d'accord, ah oui. Assez.
Oui, il fallait que je l'ajoute peut-être, oui.
Ah oui, c'est un peu comme ces femmes qui épousent des tueurs en série en prison. Ouais. D'accord, ok. Mmh. Ah, il y a ce côté-là, ouais.
J'ai juste dit ça pour briller un peu.
Mais tu m'as appris deux mots.
Ah, merci.
Tu m'as appris deux mots que je vais rentrer chez moi, je vais le sortir, je vais être fier.
Alors, c'est quoi ces deux mots?
Enclitophile et... Merde, l'autre... Enclitophile et... Hydro... Merde, je sais plus. C'est quoi?
Hybristophile. Et le premier, c'est quoi?
Tu sais quoi? Pas grave. Tu vois, je pense qu'à partir de... Allez, à la mi-temps de sa vie, c'est bon. Les nouveaux mots, c'est pas grave.
Mathieu Madénian, vous avez fait des études de droit. Vous avez décroché un DESS en sécurité, police et société, un DU et un DEA. Franchement, tous ces acronymes, c'est... bref.
Ouais, c'est l'équivalent du Master 2.
Voilà, donc en sciences criminelles, avec les félicitations du jury, encore tous les honneurs.
Ouais.
Vous vous êtes tourné vers l'humour. Après, paraît-il avoir exercé quelques mois. Vous avez fait quoi pendant ces quelques mois?
J'ai été en stage à la police criminelle de Montpellier et de Perpignan.
Vous avez vu des trucs un peu...
Ouais, tu vois des trucs pas très... C'est la crime, hein, donc c'est la PJ, c'est des meurtres, c'est des agressions sexuelles, c'est chaud. Mais je me suis régalé. Ça m'a permis vraiment de voir un côté que je veux plus voir d'ailleurs, un autre aspect de nos vies qu'on connaît pas. Et t'as des gens qui travaillent là-dedans tous les jours. Le matin, je me levais, j'étais tellement excité d'aller observer. J'étais en stage d'observation à l'époque. Je trouvais ça passionnant. Tu sais, il y a des métiers comme ça où tu vois que du négatif toute la journée. T'es les flics, les assistants sociaux. Et quelque part, eh ben, j'admire ces boulots-là.
Dans votre spectacle, à pleurer de rire, vous faites allusion à certains criminels, à certains faits divers. Je vais vous poser une question tout à fait naïve. Mais si demain, par exemple, Gisèle Pellicot ou les parents d'Alexia tués par Jonathan Daval étaient dans la salle, est-ce que vous garderiez les vannes que vous avez faites ? Je précise quand même que vous chargez les violeurs et le tueur, pas les victimes en général.
Oui, oui, c'est pour ça que j'aurais aucun souci à le faire.
Ouais.
J'aurais aucun souci à faire le passage que je fais. Bon, je vais pas le faire là, mais ce que je raconte sur le procès de Mazan, les viols de Mazan, je serais super heureux de le faire devant Gisèle Pellicot et devant la mère de Jonathan Daval. Ce que je raconte sur scène, en général, je suis en phase avec ce que je raconte. J'ai pas honte, j'ai pas l'impression d'être borderline, ou du moins si je le suis, c'est pas grave parce que je peux me regarder dans la glace quand j'en parle, donc j'ai aucun souci avec ça.
Est-ce que quand on est humoriste, on a cette faculté justement de se mettre à la place de l'autre ?
Est-ce que c'est notre métier ?
Et est-ce qu'il faut se mettre à la place de
l'autre ? Non, je crois pas. On n'est pas là pour faire de la psychologie, on est là pour faire des blagues et de l'humour. Est-ce que, la question c'est, si tu continues là-dedans, c'est est-ce que...
Est-ce qu'on pense aux conséquences
parfois ?
Voilà,
est-ce qu'on va faire du mal aux gens ? Est-ce que tu... non, je pense qu'il ne faut pas penser aux conséquences. En fait, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi, je ris de ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et je ne veux absolument pas qu'on me donne la permission de rire, en fait. Tant que c'est assumé, le problème, c'est qu'on fait trop peser sur les humoristes. Les gens sont beaucoup plus choqués par un humoriste qui fait une blague pourrie sur Twitter que par un ancien président de la République qui est condamné de manière définitive avec un bracelet électronique. Et ça choque personne qu'on ait, un premier ministre qui ferme les yeux sur des affaires de pédophiles. Enfin, je trouve ça dingue, le poids qu'on fait peser sur des humoristes. On est là juste pour faire des blagues. On a le droit de les rater. C'est pas très grave. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, notre rôle, c'est de faire marrer. Des fois, on n'y arrive pas. Et bien, la vie, elle continue, quoi.
Mais quand vous dites ça, en fait, moi, ça me fait penser aux commentaires qu'on retrouve principalement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un humoriste qui va s'en prendre plein la tronche. Mais les hommes politiques aussi, ils s'en prennent plein la tronche sur les réseaux sociaux. En fait, on s'en prend très facilement plein la tronche sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques continuent à travailler.
Ce qui n'est pas le cas des humoristes.
Non, il y en a plein de gens qui sont blacklistés, qui sont cancel, comme on dit, parce que j'en connais plein. On va pas commencer à. Je vais pas dire des noms parce que.
Ouais.
Mais j'ai plein d'exemples. Mais c'est surtout l'acharnement pour une blague, pour une opinion. Enfin, je trouve ça dingue.
Il y a la scène, l'espace de liberté. C'est-à-dire qu'il y a des humoristes qui peuvent être blacklistés, mais au moins ils ont la scène peut-être.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est du spectacle vivant qu'on fait. Et le spectacle vivant, il faut le vivre. Mmh. C'est pas fait pour les réseaux, c'est pas fait pour la télé, c'est pas fait pour la radio peut-être. C'est fait pour que des gens rentrent dans une salle où tu dois pas être en sécurité. Si les gens sont un peu déstabilisés, ça fait partie du jeu.
Quinze jours après votre arrivée à Paris, vous rentrez chez vous avec votre sac à dos sur les épaules. Là, vous passez devant France 2, il y a une affichette, recherche chauffeur de taxi pour la série Un gars, une fille. Vous rentrez, vous n'êtes pas sur la liste des comédiens qui font un test, vous baratinez, vous passez le casting, le soir, le téléphone sonne. Rendez-vous fixé le lendemain à 10h, place de l'Étoile, vous avez le rôle. Il faut baratiner pour réussir dans la vie.
Moi, ça a marché sur ce coup-là. Je crois pas qu'il faut baratiner, il faut croire en ce qu'on veut faire, il faut aller au bout de ce qu'on veut faire et se donner les moyens de les faire. Là, ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Dieu existe, mais il me passe un truc dans la tête qui m'a dit, vas-y, tape là-dedans et dis-leur que tu viens pour le casting.
Faut avoir du culot, quoi, en gros.
Faut avoir un peu de culot dans ce métier, mais il faut avoir du culot pour monter sur scène aussi, ça reste une cascade, hein. Y a rien de dangereux, hein, de monter sur scène, mais ça reste quand même un truc bizarre de parler pendant une heure et demie à des gens qu'on connaît pas tous les soirs, hein.
Vous devenez donc chauffeur de taxi, prof de plongée, curé et pote du couple Alexandre à l'ami Jean Dujardin, vous avez même votre théorie sur les cocus qui l'ont pas vu venir.
Et ça, tu vois, c'est pas...
Non, mais
c'est vrai. Non, mais attends, moi, ça me fait marrer ceux qui tombent des nues quand ils apprennent que l'autre a une relation. Je veux dire, tu le sens, ces trucs-là, c'est obligé.
Non, tu le sens. Tu le sens, comment tu le sens, toi?
Bon, c'est clair, l'autre tombe.
Ouais.
Ok,
ouais.
Il culpabilise.
Ouais.
Donc, il est plus attentionné, il est aux petits soins. Il est là, tu le sens.
Ouais.
Tiens, je t'ai ramené un petit peu, j'avais peur que tu prennes froid. Ça va? Tu veux voir quelque chose?
Oh là là, ça fait des années que j'ai pas entendu ça.
Ça fait longtemps.
Waouh, c'est des bons souvenirs ça. Ben c'était à l'époque où il devait y avoir 6 chaînes de télé et il y avait 2 programmes courts, Caméra Café et Un gars, une fille. Et je me retrouvais en Champions League dans la série qui cartonnait, qui faisait 7 à 8 millions de personnes tous les soirs avec les deux comédiens les plus connus du pays. C'était un honneur de travailler avec eux. Ouais.
Quelques années plus tard, Mathieu Madénian, vous êtes récompensé à Los Angeles pour l'Oscar du meilleur acteur dans le film The Artist. Merci d'avoir ri. J'ai envie de faire de l'humour.
Non,
bon,
mais
ça passe ou ça casse.
Mais j'y suis pour quelque chose. Je suis désolé.
Ah bon ?
C'est Jean Dujardin, si t'as réussi, c'est que quelque part, quelquefois, je t'ai donné un petit peu bien la réplique et voilà. Donc ta carrière, tu m'en dois un petit peu.
Mathieu Madénian, après Un gars, une fille en 2004, il y a le théâtre, tout va bien se passer, l'amour en quitte,
oh,
et
oui.
Il y a le stand-up, téléportation.
C'était pas comme ça au début. Hein.
Bah non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, en fait. C'était pas filmé, j'ai pas trouvé d'extrait.
Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Quand j'ai commencé, il y avait Drucker. Il y a Michel
Drucker. Il a toujours été là.
Je crois qu'il était là avant Jésus-Christ. Il était là avant l'invention de la télé, je crois. Les caméras étaient en bois. Il s'autofilmait avec.
Nous sommes donc au Paname, à Paris. C'est votre premier spectacle. Vous avez mis 10 ans à l'écrire. Être humoriste, c'est un vrai boulot. Il faut avoir un talent d'écriture. Il faut jouer aussi avec les silences, avec les rires. Il faut du rythme. Il y a une chose aussi qui est super importante, c'est qu'il faut être dans l'air du temps. Sinon, on devient has-been. Quand on voit comment la société évolue, comment on reste à la page?
On n'écoute pas ses anciens spectacles.
Ah ouais.
Il y a des choses que là tu pourrais plus faire. Et tant mieux, tu vois, mais la société évolue et l'humour évolue aussi. Il faut pas se prostituer et à tout prix vouloir plaire, mais on rajoute des piquets et ça nous oblige à faire des petits être plus malin en fait, ouais.
Et est-ce qu'on change aussi notre vision sur certains aspects de la société?
Bien sûr, par exemple dans mon dernier spectacle, dans le spectacle familial, je parle de donner de la fessée aux enfants. Je disais mais ça va quoi, pas des... En gros le message c'est ça va, on n'est pas mort. Truc de connard, tu vois. Alors, je le dis avec de l'humour sur scène, mais maintenant, quand j'écoute mon passage, je dis, je suis absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire.
Ouais.
Tu te remets en cause. Et puis, il y a des phénomènes comme la sexualité. Moi, je viens d'un... Il y avait les hétéros et les gays à notre époque. Mais maintenant, tu as les troubles, les machins, tu vois. Et c'est pas une obligation de s'y intéresser. C'est que c'est intéressant. Donc, ça fait partie de ce que tu dois raconter sur scène.
Un jour, un journaliste vous pose cette question. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on est humoriste? Vous répondez, on est libre, mais on n'est pas courageux. Pourquoi pas courageux?
Moi, j'ai toujours été libre. Parce que t'as souvent des gens qui censurent, surtout à la télé ou à la radio, mais pas courageux, parce qu'il n'y a absolument rien de courageux de monter sur scène. Tu sais, c'était à l'époque du confinement. Je pensais que le confinement, ça allait nous faire avancer beaucoup plus vite. En fait, on a reculé. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte pendant le confinement, les vrais boulots qui servaient à quelque chose. Les infirmières, les éboueurs, les caissières, on les applaudissait, tu vois. Maintenant, on s'en fout complètement. Le métier qu'on fait, même le métier du spectacle, on est trop payé par rapport à ce qu'on fait. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, j'en profite. Donc, je vais pas commencer à... Mais je pense que les métiers qui servent vraiment à quelque chose ne sont pas assez reconnus socialement. Je te parle de ma sœur et de ma mère qui sont assistantes sociales toutes les deux. Quand tu vois ce qu'elles gagnent, tu te dis, c'est pas possible. Avec ce qu'elles font. C'est pour ça que c'est un peu le bordel, en fait. Donc oui, c'est pas courageux de monter sur scène. On prend aucun risque. Le risque absolu, c'est quoi? C'est de prendre un bide. Voilà, c'est le silence quand tu t'en remets vite. Hein.
Mais comme vous le disiez, vous pouvez être boycotté aussi, mis à l'écart. Donc, ne plus vivre de son métier.
Ouais.
Qu'on a dit des choses qui ont déplu.
Oui, mais on fait pas ce métier pour plaire. On fait ce métier pour se plaire, déjà. Non. Le jour où ça devient un métier, déjà, il y a un problème. Ça doit rester un jeu, mine de rien. On dit jouer la comédie, jouer devant la caméra. Et surtout, faut rester soi-même. D'après moi, hein, c'est comme ça que j'ai réussi à durer jusqu'à présent. Je touche du bois. Mais oui, je pense que non, il faut se plaire à soi-même. Quitte à tomber, autant que ça soit pour une blague que t'assumes.
Aujourd'hui, Mathieu Madénian, vous en êtes à votre 5e spectacle.
Ouais.
Il s'appelle « À pleurer de rire ». En plus de la scène, il y a la télé avec une rencontre importante. En 2010, on vous découvre dans Vivement dimanche prochain aux côtés de Michel Drucker. Vous pensez qu'on peut passer à côté de sa vie si on ne fait pas les bonnes rencontres?
Oui, c'est pas un métier de talent. J'ai pas plus de talent que certaines personnes que tu intervieweras jamais, parce que tu les connaîtras jamais, et qui sont 10 fois plus marrantes que moi. C'est juste que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai beaucoup travaillé. Et que j'ai un peu de talent, mais très petit. Mais j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Michel Drucker, ta vie elle change du jour au lendemain. Quand on te dit du jour au lendemain, c'est la première diffusion de Vivement dimanche, c'était à 19h. Lundi matin à 8h, tout le monde me reconnaissait dans la rue. Ta vie elle change complètement. Je suis devenu le petit con qui est sur le canapé rouge, qui fait des blagues à Enrico Macias. Et les gens se sont dit, mais c'est quoi ce con là, qui se permet de dire ça. Et c'était exactement le repas familial et moi je venais péter à table. Et ben c'était ça le but. C'était un peu ça. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et c'était génial.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Mathieu Madénian, on va poursuivre notre voyage. On allume maintenant la télé. Nous sommes le 7 janvier 2015.
Mesdames et messieurs, bonjour. Une édition spéciale de ce journal de 13h, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Des hommes lourdement armés ont attaqué le siège du journal Charlie Hebdo.
L'attentat a fait 12 morts. Ces journalistes, ces dessinateurs étaient vos collègues. Vous auriez pu faire partie des victimes puisque vous bossiez pour le journal, mais vous n'y êtes pas allé ce jour-là. Comment on le vit et qu'est-ce qu'on se dit?
On le vit tous les jours, en fait, on y pense tous les jours. C'est pour ça quand il y a les anniversaires, les gens m'appellent pour me dire il y a une commémoration, des trucs comme ça. Moi, j'y vais pas aux commémorations, tu me verras jamais là-dedans. Il y a eu les 10 ans, tu vois, je suis passé, j'ai pas voulu répondre au téléphone à des interviews, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit qu'on a eu beaucoup de chance? J'y réalise toujours pas que des mecs soient partis de Syrie avec des kalachnikovs pour mettre une balle dans la tête de Kabu qui fait des dessins. Ça n'a aucun sens en fait et ça n'a toujours pas de sens. Mais au moins, ça m'a appris je vis à court terme. Tu me verras jamais te dire dans 5 ans je ferai ça. Tout ce que j'ai en plus, c'est en plus et qu'il faut que j'en profite. Parce que j'ai vu des potes à moi, des Charbes, des Cabus que j'admirais. C'était pas un ami parce que il était tellement haut que des mecs comme Volansky, des mecs comme... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance à une heure près. Et puis tu te dis quand ta mère t'appelle pour savoir si t'as envie, c'est des coups de fil que t'as envie d'éviter, tu vois. Donc j'ai continué un peu à travailler pour Charlie et puis après j'ai arrêté. Puis c'était des gens tellement gentils. C'est ça qui est incroyable. Alors, on le dit pas assez en fait. On dit que c'était des gens qui étaient des bons journalistes, des bons humoristes, des bons... Moi, avant tout, j'ai perdu des gens qui, chaque fois que je les voyais, me demandaient « Ça va? Tu vas bien? On t'a fait du mal ou pas ?» C'est Kabum qui disait toujours ça, je comprenais pas pourquoi.
On t'a fait du mal?
On me dit, on t'a fait du mal, ça va. Kabu, il était là-dedans. Mais c'était d'une gentillesse. C'était incroyable, ces gens-là. Moi, j'ai des images de Charbes. Quand je bossais pour Charlie avant les attentats, le journal était en faillite. Il faisait des appels aux dons, les gens répondaient pas. Tout le monde s'en foutait de Charlie Hebdo, hein, faut dire la vérité. Et Charbes pouvait pas me payer un salaire, donc il m'invitait à manger des fois. Et je me vois, il me payait en bouteille de vin, et on buvait du vin, et il essayait de. J'ai cette image de Charbes, on était à Saint-Germain, il était parti sur un Vélib très vite et son garde du corps lui courait après. Il voulait semer son garde du corps et était mort de rire. Cette image de Charbes qui roule en zigzagant dans les rues de Paris avec son garde du corps armé qui lui dit « Attends, attends !»
Mais oui, parce qu'il y avait des gardes du corps.
À l'époque, il y a eu déjà des problèmes à Charlie. C'était pas la première fois, il y a eu des tirs sur la façade et tout. Et moi, je me rappelle quand sur la télé, il y avait marqué, quand je m'étais levé ce matin-là, « Tire à Charlie Hebdo », le dernier message que j'ai envoyé, c'est pour ça que ça répondait, ça sonnait dans le vide, maintenant je sais, c'était « Je te préviens, je devais amener un gâteau des rois. Je te préviens, Charbes, si t'es mort, je t'amène pas le gâteau des rois. » Et donc voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, beaucoup de chance.
Mathieu Madénian, destination 2023, dernière étape de notre voyage spatio-temporel. Nous sommes au mois de juillet, à la maternité. Vous devenez papa pour la première fois. Il s'appelle Milo. Vous avez 46 ans. Ça va, on est large hein, quand même quand on voit De Niro, Al Pacino à nouveau devenu père à 80 ans.
Ouais. C'est vrai que maintenant, t'as une espèce de... Ça étonne personne que les... Surtout les papas. Oui, bon, les mamans à 80 ans, c'est... Mais tu vois, De Niro, Robert De Niro ou Al Pacino à 80 balais.
Ça étonne personne. Si, ça en étonne quand même.
Ouais, ça a choqué
même.
Un petit peu.
À 80 ans.
La petite qui est sortie, elle a dû se dire... Elle a vu la gueule de son père, elle a dû se dire « Oh là là, on va aller chez le notaire. Hein. » Parce que là... Ouais, ça va faire bizarre. Attends, tu savais que Al Pacino, il a eu une gamine, ok? Tu sais qu'il a fait un test de paternité quand il est né? ma parole, je te jure sur ma vie. Imagine le couple comme ça doit faire bizarre. Tu penses que ça va bien avec ton mec, le gosse inné, le mec il a tellement pas confiance, il fait un test de paternité.
C'est glauque.
C'est super glauque.
C'est triste,
mais est-ce que t'as vu une photo de Robert De Niro avec sa petite fille?
Oui, je l'ai vue sur Instagram.
C'est très chaud, hein. Ouais, chacun fait comme il veut. Mais merde.
On juge pas, mais c'est chaud.
C'est compliqué, là. Hein. Remarque, sa femme, elle va changer les deux en même temps. Mais c'est vrai. Robert, viens, on te change avec la petite. Allez, mettez-vous sur le truc. C'est juste pas la bonne taille de couche, il faut pas inverser.
Mathieu Madénian, la paternité, devenir père, ça a changé votre vie? C'est souvent ce qu'on dit. Hein.
Oh bah oui, hein, ça te la change. Hein. Oui, c'est un raz-de-marée.
Qu'est-ce qui a changé?
Bah tout change, en fait. Ta façon de penser, ta façon de vivre. Moi, je me suis aperçu que j'étais un mec super... Bon, on fait des métiers d'égoïste et d'égocentrique, mais j'étais vraiment centré sur moi. Il n'y avait que moi qui comptait. Depuis que Milo est arrivé, tout s'est décalé et maintenant, c'est lui en premier. Je fais mon emploi du temps en fonction de lui. Ma tournée, c'est en fonction de lui.
C'est un luxe, hein, ça, quand même, hein,
ah, j'ai de pouvoir chance, faire ça. J'ai une chance incroyable, c'est que mon fils, je le vois. Je vais le chercher à la crèche. Il est à la crèche 3 jours par semaine. Donc, le lundi matin et le vendredi matin, il n'est pas à la crèche. C'est moi qui m'en occupe. Le samedi, le dimanche, c'est off. Je m'occupe de mon fils juste avant de partir à la... Je l'endors avant d'aller jouer. Ouais, on se voit, vraiment.
Mieux vaut être papa jeune ou papa vieux? Je ne dis pas que vous êtes vieux, hein, mais...
Non, je t'aurais dit papa jeune pour le voir partir à la fac et avoir une deuxième partie de vie sympa avec ma femme. Parce que là, quand il va partir à la fac, je serai sur mon Stana avec ma poche à caca. Donc, je préfère... Non, mais en fait, c'est des conneries parce que pour faire un bébé, il faut tomber sur la bonne personne. Et la bonne personne, je la rencontrerai quand j'avais autour des 40 ans. Donc, je n'aurais pas pu faire avant.
Mathieu Madénian, on va terminer ce voyage en musique.
Mais je trouve pas de refrain à notre histoire.
Alors, est-ce que tu le mets parce que je le chambre dans le spectacle ou parce que cette chanson, elle est pas mal, elle est belle?
Moi, juste parce que vous le chambrez.
Ouais, c'est un peu ma victime. C'est un peu mon... Mais il est tellement haut, tellement talentueux, tellement aimé. Ça me fait rire de taper les grands. Hein. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Nous, notre métier, c'est de mordiller les mollets.
Patrick Bruel, je te le dis quand même. Et on finit avec les mots de Freud. L'humour ne se résigne pas, il défie. L'humour, aujourd'hui, Mathieu Madénian, il est en danger.
Déjà, que tu me poses la question, ça veut dire qu'en France, on peut encore se poser la question, c'est bon signe. Je pense pas qu'en Turquie, en Iran ou même aux États-Unis en ce moment, les gens se posent la question. Est-ce qu'il est en danger ? Non. On a encore la chance d'être dans un pays assez démocratique où on peut dire ce qu'on veut dans la limite du raisonnable, même si les réseaux sociaux éteignent parfois certaines voix. Mais il faut continuer à faire ce métier et pas oublier que c'est un métier qu'il faut faire pour soi et pas pour les autres. Et c'est en le faisant pour soi qu'on retrouve les autres.
Et quand Freud dit « l'humour ne se résigne pas, il défie », ça veut dire que c'est aussi un combat aussi parfois.
C'est un combat, mais le problème, c'est qu'on est dans une société qui n'a pas compris que ce n'est pas les humoristes qui font avancer les choses. Regardez les États-Unis, ils ont les meilleurs stand-uppers, les meilleurs humoristes, les meilleurs late shows, les meilleurs auteurs, les meilleurs films, les meilleures séries. Ils ont eu deux fois Trump. Moi, les gens qui rentrent dans ma salle, ce n'est pas des abrutis. Et je ne vais pas leur faire changer d'un coup leur paradigme en disant « tiens, c'est ça que je dois penser ». Je les secoue un petit peu, c'est tout. Mais les gens qui doivent nous faire changer les choses, évoluer, qu'on soit mieux dans nos vies, qu'on gagne mieux notre vie, le pouvoir d'achat, que les hôpitaux aillent mieux, tout ça, c'est les hommes politiques. Et ils ne font pas le taf.
Merci Mathieu Madénian.
De rien.
Allez voir son spectacle. Moi, j'y suis allée il y a quelques jours. Ça
Merci.
Avait l'air. Non, mais.
Parce que je te dis que je suis souvent interrogée par des journalistes et les journalistes ne se déplacent plus. Donc, ils te posent toujours la même question à la con parce qu'ils ont lu ça sur un dossier de presse. Toi, t'es venue et je te remercie vraiment. Voilà.
Et c'était un plaisir. J'y suis allée il y a quelques jours. Ça avait l'air marrant. Bon, j'avais oublié par contre mon appareil auditif dans le taxi, mais je reviendrai.
Comment Aznavour quand il était venu. Putain, Aznavour, il avait oublié son appareil auditif.
Mathieu Madénian sur scène, c'est drôle, enthousiasmant, grinçant, à pleurer de rire, c'est au Solo à Paris. Il y a des dates qui ont été ajoutées, il y a La Cigale le 26 avril. Dans le rétro, cette émission et toutes les autres sont dispo en podcast sur l'application Ici et sur toutes les plateformes. Passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.